France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. Bye bye Britain. C'est avec une certaine lassitude, disons-le, qu'on se pose encore une fois la question ce matin. Le Brexit est-il vraiment sur le point de se concrétiser? À Bruxelles, mercredi dernier, la présidente de la Commission européenne et le Premier ministre britannique, Boris Johnson, n'ont pu que constater l'ampleur de leurs divergences. Après le référendum britannique de juin 2016, il avait fallu près de 2 ans de négociations avant de s'entendre sur les règles du divorce. Restent à boucler, et le spectre est très large, les conditions qui doivent régir les futures relations entre l'Union et le Royaume. Le projet de traité compte quelque 700 pages. Dernier délai avant de conclure sur un no deal demain dimanche. La Commission a déjà annoncé les mesures prévues pour maintenir, à partir du 1er janvier, les transports aériens et routiers avec les îles britanniques, une fois celles-ci sorties des accords communs, et propose une prolongation des règles concernant la pêche. Londres n'a toujours pas répondu directement, mais 4 patrouilleurs de la Royal Navy seront dépêchés sur zone pour empêcher l'accès aux eaux britanniques à partir du 1er janvier. Vit-on les dernières heures d'une guerre de position où les considérations politiques, sinon idéologiques, l'emportent sur tous les autres enjeux, notamment commerciaux? L'échec est très très probable, c'est formidable. Nous pourrions faire exactement ce que nous voulons, s'écriait hier Boris Johnson, fidèle à sa rhétorique populiste, et pourtant à la tête d'un parti conservateur et d'un royaume désuni, tandis que la livre sterling faiblit et que les milieux d'affaires s'affolent. De son côté, l'Union européenne a fait montre jusqu'ici d'une unité et d'une détermination sans faille à protéger ses acquis et d'abord le marché unique. Des concessions de dernière minute sont-elles envisageables d'ici demain ? Dans un climat général plombé par la pandémie qui occupe tous les esprits, que faut-il donc attendre d'un Brexit sans accord, du perdant-perdant, cafouillage bureaucratique, embouteillage de part et d'autre de la Manche, rupture d'approvisionnement, affaiblissement des uns et des autres dans une compétition mondiale accrue? Qui souffrira le plus à court et à long terme? Un autre scénario est-il encore possible? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous, Elvire Fabry. Bonjour, vous êtes chercheuse à l'Institut Jacques Delors de Londres, et je l'en remercie. Georgina Wright, vous êtes chercheuse associée à l'Institute for Government, une excellente institution britannique. Avec nous, d'Oxford, Ian Begg, vous enseignez à l'Institut européen de la London School of Economics, et Thibaut Arroy, vous êtes maître de conférence en civilisation britannique à l'Université Sorbonne Nouvelle. Elvire Fabry, je commence avec vous. Donc dans 3 semaines tout juste, la date de butoir de sortie, 31 décembre, a d'ailleurs été imposée par Londres. Donc à partir de cette date, si rien ne se passe d'ici demain, le Royaume-Uni devient un pays tiers. Est-ce qu'on peut penser qu'aujourd'hui encore, Michel Barnier et David Frost, son homologue britannique, qui ont pourtant épuisé toutes les discussions d'ordre technique, se parlent encore?
Ils doivent tenter de maintenir en tout cas un lien de communication, mais il est vrai qu'on a le sentiment aujourd'hui que la décision repose beaucoup sur Boris Johnson, sur sa volonté politique, sur le degré de fragilité dans lequel il se trouve, et s'il se sent suffisamment en confiance pour essayer de faire passer un accord qui d'une façon ou d'une autre ne satisfera pas le noyau dur de Brexiteurs du Parti conservateur, ou si au contraire il a besoin de ressouder cette cohésion du Parti conservateur à un moment où il est très discuté, chahuté sur sa gestion de la pandémie. Mais il est vrai que si on revient sur les points de blocage actuel de la négociation. Ils sont très concentrés, ils ont déjà été bien explorés. D'une part, il y a la question de la pêche, parce que c'est une question qu'on gardait pour la fin, qui est une question de transactions. Les Européens et les Britanniques sont très interdépendants sur cet enjeu, parce que les Européens cherchent autant à maintenir leur accès aux eaux de pêche britanniques que les Britanniques ont besoin de maintenir un accès préférentiel au marché européen pour exporter leurs poissons, dont il faut rappeler que 80% dépendent du marché européen, sont vendus sur les marchés européens, et qu'un retour de tarifs qui pourrait aller de 5 à 20% pourrait condamner les pêcheurs, les exportateurs britanniques. Sur cette question, on voit qu'il y a des éléments de négociation qui sont encore en discussion, à la fois sur une période de transition pour sortir de la situation actuelle et puis sur le rabotage de l'accès des Européens aux eaux britanniques. Mais la question de fond...
Le sort des pêcheurs est évidemment très très important, et c'est un enjeu politique pour tous les pays concernés, de politique intérieure. Néanmoins, ça ne représente qu'une part très très mineure du PIB global. Donc les questions de fond, c'est quoi? C'est la concurrence équitable? Qu'est-ce que ça veut dire?
Le nœud du blocage, il est en effet, c'est cette question de concurrence équitable. Parce que le Royaume-Uni n'est pas n'importe quelle économie, il est très intégré à toute l'économie du marché unique des 27, et la proximité géographique est un facteur supplémentaire, notamment dans le secteur des services. Et les Européens ont une priorité, qui est une priorité de long terme, qui est de préserver l'unité du marché unique, de ne pas laisser s'installer une situation avec des entreprises britanniques qui bénéficieraient en fait d'avantages préférentiels qui pourraient créer des distorsions. Ça signifie quoi? Ça signifie que le Boris Johnson, depuis le départ, revendique la volonté de diverger des réglementations européennes, et ce que l'on peut craindre, c'est éventuellement une évolution à court terme ou à moyen terme ou à plus long terme d'un abaissement des normes de précaution britanniques, que ce soit dans le domaine environnemental, agroalimentaire, social, la fiscalité, et puis notamment la question de la politique de la concurrence, notamment des aides d'État, avec un Premier ministre qui indéniablement soutient un changement de politique qui n'est pas du tout conforme à la tradition du Parti conservateur britannique, qui serait un État plus interventionniste, renforcer le soutien financier, les aides publiques, et qui pourrait donner un avantage concurrentiel important aux entreprises britanniques si elles s'éloignent beaucoup des règles européennes.
Et donc les 27 veulent un mécanisme d'arbitrage solide, en fait.
Les 27 ont évolué dans leur position. Ils ne demandent pas un alignement des Britanniques sur l'évolution des normes européennes en matière d'aide publique. Ce qu'ils veulent, c'est déjà se mettre d'accord sur un principe de non-régression, que d'un côté et de l'autre, on accepte de ne pas abaisser les normes. Et puis, surtout, un mécanisme, en effet, d'arbitrage qui permette, qui soit fondé sur une évaluation de la distorsion de concurrence que cela crée, avec une possibilité d'appliquer des sanctions, qui soient à ce moment-là le fait de restaurer des tarifs, hein, de ne plus donner les avantages qui ont été concédés dans l'accord. Et puis le principe d'automaticité, est-ce qu'on pourrait mettre en place quelque chose qui serait qui s'appliquerait automatiquement ou qui passerait par des procédures d'arbitrage?
Alors passons la Manche, et sans visa pendant que c'est encore possible, pour vous rejoindre, Georgina Wright. Boris Johnson avait promis, je le cite, un oven ready Brexit, ce qui veut dire un Brexit prêt à cuire. Bon, on sait que cet ancien journaliste, qui est assez embarrassant pour notre corporation, a une conception assez approximative des faits, mais on est loin d'un Brexit prête à cuire. Quelle est donc sa stratégie qui paraît quand même jusqu'au boutiste, c'est le moins que l'on puisse dire?
Bah écoutez, nous savons que c'est un homme assez indécis. C'est un premier ministre qui n'aime pas prendre de décisions et qui n'a pas peur de faire volte-face. On l'a déjà vu avec la situation de la Covid, par exemple. Mais il est clair que je pense que l'impasse à ce stade, je suis complètement d'accord avec Elvire, me semble politique. La difficulté, évidemment, du côté du Royaume-Uni a toujours été de trouver un accord qui plaise et à Bruxelles et aux États membres, et au gouvernement britannique et au Parlement britannique également. Mais bon, contrairement à l'accord de retrait, donc l'accord de divorce, il est vrai que cette fois-ci, le Parlement britannique ne votera pas. Mais donc la décision, en fait, repose sur le Premier ministre seul. Peut-il donner...
Pourquoi, pardon, je vous interromps, Georgina, pourquoi est-ce que le Parlement britannique, on se souvient des déboires de la première ministre précédente, Theresa May, qui, il est vrai qu'elle n'avait pas de majorité à quelques voix près, dépendant de l'Irlande du Nord, mais pourquoi est-ce que le Parlement, cette fois, dans cette admirable démocratie parlementaire, ne voterait pas?
Alors, en fait, c'est parce que pour l'accord de retrait, il y avait au sein du Parlement britannique, ils ont voté pour pouvoir voter sur l'accord de retrait. Alors que quand ils ont passé l'accord de retrait, le Parlement britannique a dû adopter un acte et au sein de cet acte, Boris Johnson, le gouvernement de Boris Johnson, a inséré une ligne comme quoi le Parlement britannique ne devra pas voter sur l'accord final.
Donc l'accord de retrait. Donc il est maître du jeu.
Voilà, exactement. Donc en fait, la décision de quitter oui ou non avec un accord à la fin de la période de transition repose finalement sur le Premier ministre seul. Donc la question, c'est peut-il donner son soutien à un accord qui sera vraisemblablement un compromis? Et est-ce que l'aile droite de son parti lui autorise à compromettre également? Donc c'est pour ça qu'il y a autant, je pense, de doutes à ce niveau-là, parce que l'impasse, on connaît les points de contention. C'est vraiment la question qui repose maintenant sur les épaules de Boris Johnson. Est-ce que, à la dernière minute, est-ce qu'il va accepter un compromis, oui ou non? Je ne pense pas qu'il y ait de stratégie derrière. Je pense que pour l'instant, c'est vraiment jour le jour, heure par heure, et on verra bien ce qu'il en suit dans les jours qui suivent.
Et il ne cesse, le Premier ministre britannique, Bojo, comme on l'appelle, d'invoquer l'option australienne. Il ne dit pas no deal, parce que ça, ce serait peut-être une formule brutale. Il dit, c'est génial, on va avoir l'option australienne. Mais l'option australienne, il n'y a pas d'accord de libre-échange avec l'Union européenne.
Mais en fait, ce qui est assez étrange, c'est que l'Australie a quelques accords en place avec l'Union européenne. Or, si le Royaume-Uni quitte cette période de transition sans accord, il n'y aura pas d'accord du tout. Donc, en fait, il ne s'agit même pas d'une situation approximative à la situation entre l'Australie et l'Union européenne. Mais il est clair que, de nouveau, je pense que c'est un gouvernement d'optique. C'est un gouvernement, et surtout le Premier ministre, c'est quelqu'un de très positif. Il veut sans cesse présenter tout problème comme il y a une solution et la solution portera ses fruits, faites-moi confiance. Et donc effectivement, je pense que s'il y a une issue sans accord, il y aura un vrai problème là de communication parce qu'effectivement le no deal se verra, elle se verra peut-être pas tout de suite, les conséquences se sentiront pas tout de suite, mais on les verra à un moment donné. Et effectivement là, ce sera tout le problème du Premier ministre, de Boris Johnson, d'en faire une situation positive et de finalement promettre au peuple britannique, ne vous inquiétez pas, maintenant il y a un peu d'interruption, il y a clairement des problèmes aux frontières, mais faites-moi confiance. Le problème, c'est que l'électeur, au bout d'un moment, il se posera des questions. Donc c'est vrai qu'il y a une grande question politique et un calcul politique qui se joue et on verra bien les conséquences dans les quelques années qui suivent.
Avant d'en venir aux conséquences politiques intérieures britanniques, Ian Begg, sur le plan économique, ce qui est frappant, c'est que on sait que Albion est perfide, on sait qu'Albion est pragmatique, et ce que l'on voit, et Boris Johnson incarne Albion de manière un peu échevelée, il faut le reconnaître. Néanmoins, au fond, ce qu'il dit, c'est que ce qui compte, c'est notre souveraineté, ce qui est un concept tout à fait admirable et légitime. Mais après 47 ans de mariage commun avec les pays du continent, c'est un peu paradoxal. Et il dit, au fond, nous voulons créer nos propres règles au cas par cas. Mais concrètement, pour une économie britannique extrêmement dépendante de ses exportations vers le continent, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ?
Vouloir dire qu'il cherche à avoir des réglementations différentes dans certaines instances, par exemple sur le marché du travail. Mais ceux qui disent que ce qui est en cours de se former, c'est une sorte de Singapour sous la Tamise, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Parce que on sait que, et Georgina vient de l'évoquer, que le Royaume-Uni va dans la direction d'être plus étatiste et pas moins. Donc c'est pas qu'il cherche à avoir la liberté de faire ce qu'il veut dans toutes les circonstances et de nuire à la compétitivité des Français. Par contre, Boris exige que c'est lui, c'est nous, les Britanniques, qui vont décider, même si la décision c'est la même chose que qui a lieu en France ou ailleurs en Europe, c'est notre décision et pas la vôtre.
Il y a des accords commerciaux qui viennent d'être conclus, non pas avec les États-Unis, comme Boris Johnson l'espérait, de la part de son ami Donald, mais avec le Canada et le Japon. L'ironie, me semble-t-il, c'est que ces accords sont calqués sur ceux que l'Union européenne a conclus avec ces mêmes pays.
Tout à fait. C'est un peu la stratégie du gouvernement, c'est d'avoir à la fois les accords qu'ils avaient en tant que membres de l'Union européenne et de négocier quelque chose de supplémentaire, par exemple avec les États-Unis. L'accord entre le Royaume-Uni et le Japon, selon le ministre britannique, Liz Truss, c'est meilleur que celui qu'on avait avec l'Union européenne. En tout cas, on sait qu'on peut exporter les fromages britanniques envers le Japon qu'on ne pouvait pas quand il y avait l'accord avec l'Union européenne. Mmh. Voilà, un succès, un triomphe. Les fromages, dizaines de milliers de livres.
Oui, alors précisément, donnez-nous une idée de la taille respective des marchés. Le volume des échanges britanniques vers les 27. En pourcentage, qu'est-ce que ça représente ?
C'est la moitié.
La moitié.
Les exportations de marchandises envers l'Europe, c'est la moitié du commerce extérieur du Royaume-Uni.
Avec le Canada et le Japon ?
Canada et le Japon, c'est 1-2 points. Peut-être 3 ouais. pour le Japon. Donc, États-Unis, une quinzaine de points.
Et donc, avec les États-Unis, avec un président élu, Joe Biden, qui, on le sait, était très hostile au Brexit et qui insiste très souvent sur ses racines irlandaises, la perspective d'un accord avec les États-Unis reste quand même assez éloignée.
Oui, Donald Trump nous avait promis un accord d'ici 20 minutes, mais... ça n'a abouti à rien jusqu'ici. Et il ne faut pas se faire des fantaisies. Le Royaume-Uni a un bilan de commerce extérieur envers les États-Unis positif. Donc pour les Américains, il n'y a pas de raison d'aller rapidement vers un accord.
Mais donc tout cela, encore une fois, avec ces proportions-là en tête, cela veut dire que pour Boris Johnson, la réalité commerciale est moins importante qu'au fond la partie de poker, menteur ou pas, qu'il veut poursuivre jusqu'au bout avec les Européens.
Oui, nous allons perdre. S'il y a un accord, nous perdons par rapport à être membre de l'Union européenne. S'il n'y a pas d'accord, on perd encore plus. Donc, c'est, disons, une tension entre la liberté de faire ce qu'on veut et la prospérité.
Elvire Fabry, on a vu que la Commission, au lendemain de ce dîner à Bruxelles, où Madame von der Leyen, faisant preuve d'un humour qu'on ne lui voit pas toujours, avait concocté un menu à base de poissons, la Commission a publié les mesures à court terme de façon à permettre tout simplement aux îles britanniques de rester connectées. Donc transport aérien, les routes, Eurostar, la pêche, pour qu'il puisse encore y avoir des coquilles Saint-Jacques à Noël. Que veulent dire cet arsenal de mesures à court terme?
Michel Barnier, négociateur pour les Européens, avait repoussé l'échéance à laquelle ces plans d'urgence seraient présentés pour que ce ne soit pas un signal donné un peu de désengagement de la négociation. Maintenant, en effet, on est à 3 semaines de l'échéance finale. Et ces mesures, elles se voulaient minimales, parce qu'il ne s'agit pas d'atténuer tout le no deal. Le no deal est une réalité. Il se matérialiserait le 1er janvier s'il n'y a pas d'accord. Mais ça concerne essentiellement les enjeux de connectivité, l'air, la route, pour ne pas, suspendre les avions en l'air.
Mais justement, c'est essentiel. On se rend compte tout à coup que ça concerne les certificats de sécurité des avions. Ça concerne la possibilité pour des compagnies britanniques, je pense notamment à EasyJet, de faire du transport intra-communautaire. Ils ne pourront plus prendre des passagers en France pour les amener en Grèce, par exemple. Donc, c'est quand même très, très concret, très vite.
C'est très concret, c'est-à-dire que le no deal, il faut réaliser que ça n'est pas simplement une question de droit de douane qui s'impose, une hausse des coûts simplement pour le commerce. Le no deal, c'est une sorte de page blanche dans tous les domaines. Ça concerne également le transfert des données. Et le transfert des données, aujourd'hui, il est partout. Il est partout et c'est la matrice de toute l'économie. Mais c'est aussi le droit pour les camionneurs britanniques de circuler dans l'Union européenne, de faire ce qu'on appelle du cabotage, de passer d'un État membre à l'autre ou pas. C'est le port de la sécurité sociale pour les citoyens britanniques. C'est également l'accès pour tous les Britanniques qui sont dans le secteur des services, dont Yann vient de rappeler que l'économie britannique est non seulement très dépendante à 80% du secteur des services, mais à 50% les exportations de services britanniques concernent le marché européen. Ils ont besoin d'accéder sur le continent. Il y aurait des formalités, des délais, des demandes de visa qui s'appliqueraient. En fait, c'est un muscle très dense qui est coupé du jour au lendemain. Et cela signifie également que tous les sujets que l'on aurait à traiter resteraient finalement sur la table, parce qu'on ne pourra pas en rester là. Il faudra bien se mettre d'accord et continuer encore à discuter, mais de manière différente. C'est là où on voit que le coût de ce no deal est à la fois un coût immédiat, évidemment, pour tous les acteurs économiques, mais c'est également un coût additionnel à une situation de crise économique déjà très complexe et qui peut rendre le retour à la croissance encore plus compliqué.
Précisément pour nos économies et d'abord pour l'économie française, que représente à court terme et à moyen terme un no deal? Que représentent nos exportations vers le Royaume-Uni?
La France est peut-être moins exposée que d'autres pays. Ceux qui sont les plus dépendants du marché britannique, ce sont évidemment d'abord l'Irlande, mais on a les Pays-Bas, l'Allemagne. L'Allemagne qui notamment, à travers tout le secteur automobile, est très dépendante également des chaînes de valeur qui ont été établies entre les deux pays. On est moins exposé, on est davantage exposé sur des secteurs plus sensibles comme la pêche, et on l'a entendu la semaine dernière, le gouvernement français a pris des positions très fermes en disant qu'il ne voudrait pas faire des concessions de dernière minute sur la pêche. Il va bien falloir trouver un compromis.
Emmanuel Macron a même brandi la menace d'un veto.
Oui, veto que peuvent exercer tous les États membres. Mais c'est finalement simplement un rappel de la position ferme qu'a eue la France, à la fois évidemment sur la question de la pêche, mais surtout sur la question des conditions de concurrence équitable. Il faut Il faut se rappeler que la France pousse, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, un agenda européen plus ambitieux, fondé sur le marché unique, plus offensif vis-à-vis de la Chine, et que c'est cet enjeu de ce qu'on appelle en anglais le level playing field, de concurrence équitable, est vraiment au cœur du nouvel agenda de la Commission européenne, avec une politique industrielle plus renouvelée, une révision de la politique de la concurrence, révision de la politique commerciale, et qu'il ne s'agit pas de faire des concessions côté britannique, là où on renforce cette conditionnalité vis-à-vis d'autres partenaires. On a renégocié avec la Suisse en 2018 un accord qui doit encore être ratifié, mais dans lequel on a introduit des règles contraignantes sur le contrôle des subventions et un mécanisme de règlement des différends. En fait, cet élément de blocage de la négociation avec le Royaume-Uni s'intègre dans un agenda beaucoup plus large au niveau européen d'utilisation du marché unique comme levier pour obtenir des conditions de concurrence plus équitables avec leurs partenaires.
Venons-en avec vous, Thibault Haroy, bonjour, on ne vous a pas encore entendu, à la politique intérieure britannique, qui est toujours un exercice qui nous fascine, ne serait-ce que par le décor de la Chambre des communes. Pour Boris Johnson, il faut le rappeler, qui a été élu avec une confortable majorité, je crois 80 sièges, les prochaines élections, en principe, sur le papier, n'interviendront qu'en 2024. Quels sont donc les enjeux pour lui au sein même d'un parti conservateur qui reste assez rétif et à un moment, et on le rappelait d'entrée de jeu, où sa gestion de la pandémie a quand même été chaotique?
Oui, la situation de Boris Johnson aujourd'hui, elle est assez paradoxale parce que je crois qu'on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Il est seul responsable de la situation actuelle vis-à-vis de l'Union européenne. C'est lui qui doit prendre la décision. Et on l'a dit, il n'attend pas de soutien particulier de la part du Parlement puisqu'il peut négocier et signer cet accord de manière autonome, sans forcément l'aval des députés. Et comme vous l'avez dit, la majorité qu'il a au Parlement est assez large, ce qui fait que on se demande quelle pression pourrait exercer l'un ou l'autre des bords du Parti conservateur, puisque, quoi qu'il arrive, il semblerait que même s'il y avait un certain nombre de conservateurs qui s'opposaient à son accord ou qui voudraient suivre une marche différente, il aurait tout de même une majorité. Donc la situation de Boris Johnson aujourd'hui est tout à fait paradoxale, même dans son propre parti, puisqu'il semble dans une impasse, mais une impasse dans laquelle il s'est mis tout seul, sans attendre que ce soit d'un bord plus à droite ou un bord plus à gauche dans son parti qui l'y mette. Et aujourd'hui, le Parti conservateur reste quand même assez tendu sur la question du Brexit, parce qu'on se souvient qu'il y a quand même un certain nombre de députés plutôt centristes, du centre-droit, qui étaient opposés à un Brexit dur. Et ces députés sont encore quelques-uns à être présents dans le parti, même si on se souvient qu'au moment de l'élection de 2019, Boris Johnson en avait exclu un certain nombre, ou en tout cas en avait fait taire un certain nombre, même s'il les avait réintégrés un peu plus tard dans le parti. Donc c'est un parti qui est normalement aujourd'hui plutôt aligné avec la position de Boris Johnson, avec quelques divergences à l'intérieur du parti quand même, il y a différents courants qui existent, mais tout cela importe peu sur les décisions prises par Boris Johnson, encore une fois, puisqu'il est seul à décider là.
Mais ce qui est quand même sidérant, c'est qu'il y a un an, le même homme disait, Boris Johnson, que le no deal serait une catastrophe, et aujourd'hui il dit que c'est formidable.
Oui, mais ça de toutes les contradictions de cet homme qui est capable de dire tout et son contraire. N'oublions pas que le Brexit a eu lieu après une campagne menée en partie, il y avait plusieurs campagnes en faveur de la sortie de l'Union européenne, mais une de ces campagnes était menée par Boris Johnson, et à l'époque, en 2016, alors qu'il n'était qu'un membre, un backbencher, comme on dit, c'est-à-dire un membre qui n'était pas un membre prééminent du parti conservateur, il a réussi à mener cette campagne sur des mensonges. Et une fois arrivé au pouvoir, ce qui n'est arrivé que 3 ans plus tard, en 2019, Boris Johnson a continué à mentir ou à dire des demi-vérités. Et tout cela participe à cette personnalité complexe ou justement qui manque peut-être de complexité, je ne sais pas, mais qui est paradoxal et qui est capable de dire, comme vous l'avez dit, hein, tout est son contraire.
Il a néanmoins conquis un électorat qui votait précédemment à gauche et surtout dans les régions qui souffrent énormément au nord-est de la Grande-Bretagne, et il doit satisfaire cette clientèle. Donc, est-ce que son insistance sur une absence de contrôle commun des aides publiques, même si c'est encore une fois paradoxal pour le Parti conservateur britannique, mais là aussi la pandémie a un impact considérable, la nécessité donc d'investir davantage dans ces régions qui souffrent plus encore, est-ce que c'est une dimension qu'il faut prendre en compte?
Alors c'est vrai que la question des investissements, et en particulier dans les circonscriptions ou les régions du nord-est de l'Angleterre qui traditionnellement votaient plutôt pour le parti travailliste et qui en 2019 ont choisi d'envoyer à Westminster des députés conservateurs. Donc comme vous l'avez dit, il faut satisfaire ce nouvel électorat qui vient d'être conquis, et on peut penser que les investissements promis, notamment dans le cadre du Brexit certes, mais aussi dans le cadre de des conséquences de la pandémie et de la lutte contre les conséquences économiques du Covid-19, on peut penser qu'en effet il faut satisfaire ces engagements et que Boris Johnson a une incitation particulière à investir dans les régions du nord-est de l'Angleterre pour stabiliser, pour conserver ce nouvel électorat conservateur qui vient d'être acquis en 2019. Par contre, ça n'a pas forcément un lien direct avec la question des investissements dans les entreprises et de soutien des aides d'État, etc. Parce que cette question-là, des aides d'État, elle date d'avant la crise du Covid. Donc, il y avait déjà cette idée qu'il faudrait soutenir l'économie et que le gouvernement était prêt à avoir un jeu déloyal vis-à-vis des règles de l'Union européenne, mais ça date d'avant le Covid. Peut-être que ça a été renforcé par la crise actuelle, mais ce n'est pas forcément directement lié.
Un mot encore sur le positionnement du Parti travailliste, de l'opposition donc, et de son chef Keir Starmer. Que dit-il à propos d'un no deal?
Alors je crois que pour les travaillistes aujourd'hui, un accord vaut mieux que l'absence d'accord. Mais on a quand même vu ces derniers jours qu'une soixantaine de députés menaçaient de ne pas, députés travaillistes menaçaient de ne pas voter l'accord même s'il était trouvé. Donc on voit que le parti travailliste aujourd'hui reste encore divisé. Et ce n'est pas tellement, il me semble, la responsabilité de Keir Starmer, qui certes est le chef de file des travaillistes, donc qui aujourd'hui doit gérer son parti. Mais c'est une situation qui est quand même largement héritée de la mandature précédente de Jeremy Corbyn, qui était le chef du parti jusqu'au début de l'année 2020 et qui n'a rien fait pour unir son parti sur la question du Brexit. Au contraire, il a joué un jeu double. Il n'a jamais engagé le parti sur une ligne claire. Et aujourd'hui, Keir Starmer essaye de reconstruire la popularité du Parti travailliste, essaye de reconquérir l'électorat, mais c'est une situation qui est extrêmement difficile pour lui suite aux années de Jeremy Corbyn. Oui. Et il me semble que Jeremy Corbyn aurait pu, ou les travaillistes de manière générale, auraient pu soutenir un accord, l'accord de Theresa May par exemple, et quitte à aller vers cette sortie avec un accord plus soft en 2018, et ils ne l'ont pas fait pour tout un tas de raisons. Ils étaient divisés, encore une fois Jeremy Corbyn n'a pas su imposer une marche claire, et aujourd'hui il se trouve face à un choix qui est encore pire, puisque il s'agit d'adopter soit un accord dur, soit se retrouver dans une absence d'accord. Mais la responsabilité n'est pas tellement celle de Keir Starmer.
Georgina Wright, on comprend que la Covid-19 dans le Royaume-Uni comme chez nous domine toutes les préoccupations, mais dans quel état d'esprit ce matin sont les milieux d'affaires britanniques. On se souvient que les grandes entreprises, en tout cas, étaient très, très majoritairement pour le Remain.
C'est une excellente question et effectivement, en fait, on n'entend pas vraiment le milieu d'affaires et je pense pour quelques raisons diverses. Premièrement, évidemment, le milieu d'affaires lors du référendum s'est vraiment porté pour le Remain et donc lorsque Theresa May a été élue Premier ministre, elle leur a bien fait comprendre que voilà, il fallait que ce soit le gouvernement britannique qui gère ces négociations et que ce soit le gouvernement britannique qui communique les négociations et les.
Oui, mais aujourd'hui.
Mais aujourd'hui, effectivement, le milieu d'affaires est affaire parce que d'un côté, il y a eu la Covid qui a occupé tout l'état d'esprit et toutes les. Enfin, il y avait vraiment aucunement moyen, surtout pour les petites PME, de planifier et pour la Covid et pour un no deal ou un deal Brexit. Et deuxièmement, on entend de plus en plus les grandes associations, donc comme la CBI, la Confédération des industries britanniques, qui dit voilà, nous, il est très difficile de communiquer ce qui changera le 1er janvier parce qu'on ne sait pas exactement quelles seront les conséquences et ce que doivent faire les PME pour préparer, pour continuer à faire du commerce le 1er janvier.
Donc, mais c'est sidérant, c'est dans 3 semaines.
Oui, tout à fait, et on sent effectivement qu'il y a une pression sur le gouvernement, mais d'un autre côté, je pense surtout les petites entreprises n'ont pas envie de voilà de tout d'un coup commencer à demander des clarifications, parce qu'effectivement, le gouvernement, cette dernière année, a donné énormément d'argent, énormément d'aide aux entreprises pour qu'elles puissent continuer à survivre lors de la Covid, cette période qui a été évidemment une crise économique, en plus une crise de santé, et effectivement, celle-là, il les mène un peu dans une position délicate où ils ne se sentent pas aptes ou prêts pour vraiment commencer tout d'un coup à mettre pression sur le gouvernement britannique. Mais effectivement, c'est un grand problème et je pense qu'au-delà s'il y a un accord ou pas d'accord, c'est que se passe-t-il pour les PME le 1er janvier? Seront-elles prêtes? Et si elles ne sont pas prêtes, qu'est-ce qu'on verra aux frontières? Quelles seront les conséquences?
La Banque d'Angleterre a publié hier un avertissement annonçant des turbulences, même si elle précise que le secteur bancaire britannique est tout à fait capable d'absorber des pertes importantes. La livre sterling a baissé d'1,5% par rapport à l'euro et au dollar tout au long de la semaine. Ce sont quand même des signaux pour la City de Londres, dont le sort, me semble-t-il, a été rarement évoqué britannique dans ces négociations. Enfin, tout cela, ce sont des signaux inquiétants. Georgina.
Oui, sauf que, évidemment, en fait, le Brexit, c'est pas un calcul économique, c'est une question politique. Et on le sait bien, l'impact économique, il y a, je pense, l'Office du budget responsable a publié une étude récemment qui disait, voilà, un no deal, le résultat serait une perte de plus de 830 000 emplois. Et effectivement, un énorme choc économique. Mais c'est un calcul pour le Premier ministre et pour le gouvernement, c'est un calcul politique. Parce que prenons par exemple les problèmes aux frontières. On sait qu'il y aura des problèmes aux frontières, qu'il y ait un accord ou pas. Et parce qu'il y aura des vérifications des produits, parce qu'il faudra s'assurer que effectivement ces produits soient conformes aux lois européennes, il y aura des postes douaniers. Mais s'il y a une issue avec un accord, ces problèmes aux frontières, c'est le Premier ministre qui en est responsable. Alors que s'il y a une issue sans accord, et bien le Premier ministre peut tenir l'Union européenne responsable. Il peut dire, ben oui. Voilà, c'est de la faute de l'Union européenne.
Oui, voilà, le blame game, comme on dit élégamment dans votre langue natale. Mais venons-en quand même avec vous, Yann Begg, au problème concret. Pour le consommateur que vous êtes, et je sais que vous aimez le fromage français. Bon. Que va représenter pour le pouvoir d'achat du consommateur britannique à partir du 1er janvier, donc toujours dans l'hypothèse d'un no deal, et je rappelle que l'échéance, elle tombe demain, pour les produits frais, pour les produits agricoles, les taxes vont être énormes et les salades vont pourrir sur pied ou plutôt dans les camions avant d'arriver dans les magasins.
C'est les risques. Et on reconnaît déjà qu'il y aura de l'inflation du prix des produits alimentaires. Donc, même si j'ai pas le choix des excellents fromages français, je sais que beaucoup d'autres choses qu'on importe chez nous risquent d'être à la fois plus chères et plus difficiles à recevoir. Et là, c'est tout le, disons, le drame de Brexit, que ça nuit à des choses qu'on trouve normales dans notre vie quotidienne. Et par exemple, les vacances. Est-ce que j'ai besoin d'un permis de circulation, de conduire international pour que je puisse circuler en France? Est-ce que j'ai besoin d'un visa? Mon chien, est-ce que je peux arriver avec mon chien en France pour les vacances?
Alors on sait que déjà, on ne pouvait pas amener de chien chez vous. Hein.
Si, il y a des passeports de chien.
Ah, il y a des passeports de chien, bon. Oui.
Mais est-ce que ça va continuer après le Brexit? On ne sait pas. Il y a beaucoup d'incertitudes sur toutes ces questions. Et en même temps, on nous dit que 97% de l'accord est conclu. Il reste les 3% qui risquent de arrêter tout. Donc, c'est plein de paradoxes, toute cette histoire de Brexit.
Mais ça veut dire en tout cas qu'il y aura congestion aux frontières. On a vu deux ministres français se rendre à la gare du Nord au départ d'Eurostar pour dire que tout va bien se passer. Je crois qu'il y a un accord d'ailleurs bilatéral. La Commission a autorisé la France à avoir un accord bilatéral concernant l'Eurostar pour qu'il puisse continuer à partir du 1er janvier à circuler. Néanmoins, que ce soit à Calais, à Douvres ou même dans le Kent, on a vu des le Kent chez vous va être transformé dans un immense parking à ciel ouvert pour les camions parce que les embouteillages vont être monstrueux.
Oui, ils ont même fait des simulations pour voir à quel point ce serait possible de gérer. Et on sait, comme vous dites, Christine, que le Kent risque d'être un embouteillage de 60 kilomètres, avec déjà des zones pour mettre en place les camions. Donc, c'est toutes des choses bizarres qu'on discute. Et quand on parle des frictions à Douvres ou bien à Calais ou le terminal Eurostar de Gare du Nord, c'est à la fois des constatations que ça risque d'être difficile et parfois des menaces, à la fois de la part des Français et des Britanniques en disant si vous faites ça, voilà, on va vous punir en faisant cela.
Thibaut Arroy, le paradoxe aussi, pour continuer à s'intéresser à nos amis britanniques, c'est que le Royaume est très désuni. On sait que l'Écosse, l'Irlande du Nord, avaient voté majoritairement pour rester dans l'Union européenne. Et en Écosse en particulier, les indépendantistes gagnent du terrain.
Oui, tout à fait. Si on cherche des gagnants dans cette histoire du Brexit, c'est peut-être les Écossais et en particulier les indépendantistes écossais. Alors je dis ça, c'est évidemment exagéré de dire qu'ils gagnent parce que le coût est évidemment extrêmement élevé pour eux aussi. Mais politiquement, le SNP, donc le parti indépendantiste écossais, pourrait tirer avoir des retombées positives pour sa stratégie d'indépendantisme dans les années à venir, parce que dès le lendemain du 23 juin 2016, donc le lendemain du référendum, des voix se sont élevées, en particulier celle de la première ministre écossaise, pour réclamer un deuxième référendum en vue de l'indépendance de l'Écosse vis-à-vis du Royaume-Uni. Et ce deuxième référendum donc suivrait le référendum perdu de 2014, et serait l'occasion pour les Écossais, les indépendantistes écossais, de faire valoir aujourd'hui leur situation paradoxale dans un Royaume-Uni qui sort dans son ensemble entièrement de l'Union européenne, alors qu'en effet la région d'Écosse avait voté pour rester dans l'Union. Donc le discours maintenant des Écossais serait de dire « nous voulons l'indépendance pour ensuite pouvoir réintégrer l'Union européenne en tant qu'État indépendant à part entière séparément du reste du Royaume-Uni ». Donc c'est une possibilité. Pour l'instant, l'organisation de ce référendum est peu probable parce que on voit mal comment le gouvernement conservateur au pouvoir à Westminster, enfin à Londres, pourrait donner l'autorisation à l'Écosse d'organiser un tel référendum. Mais dans les années à venir, en particulier si le SNP remporte les élections de mai 2021 et qu'il est en position de force en Écosse, pourrait continuer à faire pression sur le gouvernement britannique en vue d'avoir l'autorisation d'organiser le référendum, de mener une campagne sur le thème de l'indépendance dans le but de réintégrer l'Union. Et on peut envisager que d'ici quelques années, peut-être une décennie, ce référendum ait lieu. Je ne sais pas s'il aura lieu plus tôt, c'est difficile à dire, mais en tout cas, le discours est là et petit à petit, ça semble gagner du terrain puisque plusieurs sondages, et ça c'est quelque chose de remarquable, plusieurs sondages récents ont donné une majorité en faveur de l'indépendance en Écosse.
Qu'en est-il de l'Irlande du Nord? On se souvient, ça avait quand même beaucoup choqué de la part d'une culture politique qui a inventé l'état de droit que le gouvernement Johnson avait foulé au pied une partie de l'accord de divorce concernant cette fameuse frontière entre les deux Irlandes. C'est la seule concession d'ailleurs ces derniers jours faite par Londres vis-à-vis de l'Union européenne. Ils ont dit, bon, on va rétablir ce protocole irlandais. Mais bon, pour les deux Irlandes, un no deal, c'est véritablement une catastrophe.
Oui, alors c'est une catastrophe évidemment pour la République d'Irlande, donc État indépendant du Royaume-Uni, qui est un membre de l'Union européenne et qui voit évidemment son commerce avec le Royaume-Uni et avec l'Union européenne menacée, puisque même les biens à destination du continent transitent régulièrement par le territoire britannique, donc évidemment tout contrôle, tout ce qui pourrait ralentir le trafic est négatif pour l'économie irlandaise. Il y a évidemment aussi l'imbrication entre l'économie de la République d'Irlande et puis ce qui se passe en Irlande du Nord avec des biens, des personnes qui franchissent la frontière en permanence. Donc là, il y a évidemment quelque chose à perdre pour la République d'Irlande. Quant à l'Irlande du Nord, la situation est encore plus complexe, je crois, parce qu'on sait qu'il y a deux communautés qui se sont fait la guerre pendant plusieurs dizaines d'années en Irlande du Nord et qui ne sont que dans une situation de paix. On parle de paix négative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu véritablement encore de réconciliation entre les deux communautés. La paix est extrêmement fragile en Irlande du Nord et le rétablissement d'une frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord vient menacer cette paix. Sans parler aussi, là encore, des problèmes économiques éventuels que le no deal pourrait poser. Donc il y a en Irlande du Nord une situation complexe et on a vu que ce soit les nationalistes où les unionistes, les deux communautés ont voté majoritairement pour rester dans l'Union européenne, parce que les deux communautés s'accordent pour dire qu'il y a un intérêt à rester dans l'Union pour la paix et pour la prospérité relative de l'Irlande du Nord par rapport au reste du Royaume-Uni.
Donc, une dernière question, Thibaut Haroy. Et ça ajoute encore à l'ironie de la situation. L'opinion publique dans le Royaume-Uni a évolué évidemment depuis le référendum de 2016 et on voit dans les tout derniers sondages qu'en fait il y aurait maintenant une majorité pour rester dans l'Union européenne.
Oui, tout à fait. Il y a plusieurs sondages qui ont donné ce résultat. Alors est-ce que c'est par lassitude que finalement les électeurs regrettent ce processus qui n'en finit pas ? C'est une possibilité. Il y a aussi le fait que beaucoup d'électeurs avaient voté contre l'Union européenne sans vraiment savoir pourquoi ils s'engageaient, tout simplement parce qu'il n'y avait pas eu de proposition claire au moment du référendum de 2016. Le plan de l'après-Brexit n'était absolument pas défini. On voit qu'il ne l'est toujours pas, d'ailleurs. Donc peut-être que maintenant, les électeurs aussi ont pris conscience de l'incertitude dans laquelle ils se sont mis et le fait que le Brexit n'était finalement pas une si bonne idée que ça parce que on ne sait pas vers quoi on va et que visiblement ce n'est pas le pays de cocagne qui avait été vaguement dessiné par les pro-Brexit en 2016.
Et puis il y a eu une désinformation massive et à laquelle évidemment les Brexiteurs durs ont amplement participé et d'après les services britanniques, certains opérateurs russes aussi.
Oui, alors c'est vrai, on a parlé de ces de ce que les Russes auraient pu faire en 2016 éventuellement pour influencer le vote, mais je crois que les Britanniques sont aussi largement responsables des mensonges qui ont été proférés. Je rappelais tout à l'heure Boris Johnson en 2016, hein, qui faisait campagne en promettant que 350 millions de livres par jour étaient dépensés pour l'Union européenne et qu'on pourrait tout simplement rapatrier ces 350 millions de livres par jour pour l'investir dans le système de santé. Premièrement, le chiffre était complètement abusif, et deuxièmement, le système de santé continue de souffrir du manque d'investissement. Donc on voit bien que les mensonges de 2016 étaient flagrants, et qu'aujourd'hui, évidemment, la population se rend bien compte que tout cela n'était qu'une distorsion de la réalité.
Elvire Fabry, ce qui a été remarquable et certainement décevant pour Londres, depuis le début de ce processus pénible du Brexit, ça a été la solidité du bloc des 27. Alors que, bien évidemment, la diplomatie britannique, dont il faut toujours rappeler l'excellence, n'a eu de cesse que d'essayer de fissurer ce bloc.
Oui, tout à fait, parce que les intérêts des États membres, encore une fois, sont assez variables dans selon l'évolution de la relation avec le Royaume-Uni en fonction des différents secteurs économiques, la proximité géographique également. Et depuis le début, l'équipe de négociation a joué un très grand rôle avec Michel Barnier dans le séquençage et l'organisation des négociations. Je pense qu'il y aura, avec du recul, un certain nombre de leçons à tirer de la façon dont cette négociation a été conduite, avec à la fois un maintien de la prise de décision au niveau de la Commission européenne, d'abord parce que ça a beaucoup trait aux enjeux de politique commerciale, qui est une compétence exclusive de l'Union européenne, mais encore aujourd'hui, on le voit, ces derniers jours, c'est Ursula von der Leyen qui a été l'interlocuteur principal de Boris Johnson. Il souhaitait même avoir un coup de téléphone lundi prochain avec Emmanuel Macron, Angela Merkel, pour pouvoir continuer à parler des négociations. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, lui a rappelé que le seul fil de communication, c'était la Commission européenne. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'alignement qu'il y a eu notamment entre la France et l'Allemagne, avec une distribution des rôles entre une France qui jouait un rôle plus ferme, un peu de bad cop, et l'Allemagne qui pouvait être le point de fragilité dont les Britanniques pensaient pouvoir obtenir davantage de concessions. Jusqu'au bout, cette cohésion est maintenue. On a entendu encore ces derniers jours le Premier ministre italien et ses Premiers ministres suédois apporter leur soutien à la fermeté de la position européenne, notamment sur cette question de compétitivité juste.
Qu'en est-il des Pays-Bas ? Parce que on sait que historiquement, traditionnellement, les liens avec la Grande-Bretagne sont étroits.
Les Pays-Bas poussent énormément pour qu'il y ait un accord, d'autant qu'ils ont finalement pris un petit peu par substitution avec le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, un petit peu le rôle de fer de lance avec une position plus libérale au sein du marché unique. Ils se sentent très proches des Britanniques et ils plaident en effet pour essayer de limiter toutes les frictions économiques. Mais d'une certaine façon, comme les Allemands et comme on l'a entendu de la part de l'industrie allemande, le choix est quand même très clair. S'il s'agit d'arbitrer entre le marché unique ou les Britanniques, c'est le choix du marché unique qui est pris. Et c'est parce que l'industrie allemande aussi est derrière Angela Merkel qu'elle prend cette position très ferme dans la négociation.
Et puis, on a vu aussi, il faut le souligner parce que on a tendance toujours à décrire le processus européen comme étant fragile. Il y a le succès du Conseil européen qui s'est terminé hier pour débloquer le plan de relance après le jeu polonais et hongrois pour tenter d'arrêter les frais, si j'ose dire.
Oui, dire. Le message de Ursula von der Leyen était très clair. On n'a pas d'éléments d'avancée significative dans les négociations. Nous n'aborderons pas le sujet au Conseil européen. Notre priorité est ailleurs. Notre priorité, elle est sur les gros sujets qui se discutent actuellement, et notamment cette question du budget européen, et qui est vraiment au cœur d'un projet d'une étape fondamentale de solidarité entre les Européens. Donc on voit un petit peu un décalage entre des Européens qui ont franchi un cap de solidarité financière pour gérer cette crise de la pandémie et crise économique, et de l'autre, le dossier du Brexit, qu'ils ne voulaient pas remettre en discussion entre eux. Il ne s'agissait pas de laisser une marge pour qu'ils puissent créer de la dissension entre les États membres.
Georgina Wright, il est normal, me semble-t-il, dans ces circonstances qui sont quand même absolument tragiques, pour qui observe le sens de l'histoire, avec ce Brexit qui menace donc dès demain d'intervenir réellement. Est-ce une déception pour Londres de constater qu'au fond, vous autres Britanniques, vous n'êtes plus notre priorité à nous, Européens du continent?
Ben, je pense qu'en réalité, et c'est un peu le problème avec le Brexit, c'est que le Brexit et puis ensuite la Covid a tellement occupé l'esprit de nos députés et de notre gouvernement que finalement, je ne pense pas que Londres ait suivi de près ce qui se passait à Bruxelles. Et souvent, moi, je me retrouve en entretien où justement je dis, vous savez, l'Union européenne, il y a d'autres discussions bien plus importantes qui se passent au sein de Bruxelles. Et souvent, les gens sont assez étonnés. Je pense que qu'effectivement, les gens ne se rendent pas très très bien compte des grandes questions dont se passe l'Union européenne et le fait qu'effectivement l'Union européenne avance. Mais ceci dit aussi, c'est un choix de la part du gouvernement, parce que d'accord, il y a peut-être certaines personnes qui regrettent le Brexit, qui ont voté le Brexit et qui le regrettent, mais beaucoup de sondages montrent que en fait ceux qui ont voté le Brexit sont très contents avec leur choix et leur décision et ont hâte de l'avenir, et on a un Premier ministre qui effectivement promet un pays qui sera plus actif sur le plan international et qui pourra vraiment investir dans les régions qui ont été défavorisées qui se sont senties délaissées par rapport à Londres pendant
donc la souveraineté d'abord, ce sera le mot de la fin en anglais, et qui prouve en tout cas que les Britanniques ont été bien meilleurs dans leurs négociations au sein même de l'Union européenne pendant 47 ans qu'avec l'Union européenne. Donc merci à vous Georgina Wright de l'Institut for Government, merci à vous Elvire Fabry de l'Institut Jacques Delors. Je recommande bien sûr les nombreuses notes dont vous avez été l'autrice, comme on dit aujourd'hui, mais aussi d'autres bien sûr sur le site de l'Institut. Merci à Thibault Arroy. Vous avez publié un papier sur la sécurité et la coopération, la sécurité étant d'ailleurs un enjeu très très important avec le Brexit, publié dans la Revue française de civilisation britannique. Merci à Ian Begg. Vous avez, Ian, coordonné un livre du forum, du Dahrendorf Forum, Looking Back, Looking Forward, aux éditions de LSE Ideas. Et voilà, merci à Luc-Jean Reynaud à la réalisation, Baptiste Linard à la technique, Hugo Boursier qui a préparé cette émission comme chaque semaine et qui mettra toutes ses publications en ligne sur notre site. Et comme chaque samedi, eh bien voici Hervé Gardette, bien sûr. Très bon week-end, à samedi prochain.